Ouvrez votre porte, éteignez les lumières, allumez une bougie, sortez votre plaid et installez-vous confortablement. Bienvenue dans À Notre Regard, l'émission de Radio G qui vous plonge au cœur du paranormal et de l'ésotérisme. Bref, tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Un Autre Regard, l'émission qui explore les mystères, les phénomènes inexpliqués, les grandes énigmes de l'histoire et les frontières de l'inconnu. Ce soir, nous allons ensemble partir à la rencontre d'un personnage étonnant, un homme dont les idées étaient si en avance en son temps qu'elles semblent encore aujourd'hui relever de la science-fiction. Alors lorsqu'on évoque l'invention du phonographe, le nom de Thomas Edison vient immédiatement à l'esprit. Pourtant, plusieurs mois avant lui, un Français avait déjà imaginé le principe de l'enregistrement et de la restitution du son. Ce Français, Charles Cros, poète, inventeur, scientifique et visionnaire, était animé par une curiosité sans limite. Mais son génie ne s'arrêtait pas aux innovations techniques. Fasciné par les progrès de l'astronomie et les spéculations de son époque sur la planète Mars, hein, les fameux canaux, il allait jusqu'à imaginer un système permettant d'envoyer des signaux lumineux vers la planète rouge afin d'établir un contact avec une éventuelle civilisation extraterrestre. Alors simple rêveur, génie incompris, précurseur des programmes modernes de recherche de vie intelligente dans l'univers, que nous allons en tout cas découvrir ensemble ce soir. Et pour nous accompagner dans cette aventure, j'ai le plaisir de recevoir une nouvelle fois Jonathan Ginet, passionné d'histoire et des sciences, auteur, conférencier. Il aime les découvertes insolites et les personnages méconnus qui ont pourtant contribué à façonner notre monde moderne. Il s'intéresse depuis plusieurs années au destin hors du commun de ces inventeurs et penseurs visionnaires de l'histoire, que l'histoire a parfois injustement relégué au second plan. Avec lui, nous reviendrons sur la vie de Charles Cros, ses inventions, ses intuitions extraordinaires, mais aussi le contexte scientifique de la fin du 19e siècle, une époque où les frontières entre les rêves les plus audacieux et les découvertes les plus révolutionnaires semblaient parfois très minces. Alors installez-vous confortablement, ouvrez grandes vos oreilles et préparez-vous à lever les yeux vers les étoiles avec étonnement. Vous écoutez Un Autre Regard sur Radio G Angers et ce soir nous partons sur les traces de Charles Cros à l'écoute des extraterrestres en compagnie de Jonathan Ginet. Alors, on reçoit encore une nouvelle fois avec plaisir Jonathan Ginet qui vient nous faire découvrir du coup ce poète inventeur, ce rêveur. Jonathan Ginet, bonjour.
Bonjour, merci de me recevoir une fois de plus.
On est ravis en tout cas de découvrir aussi, redécouvrir plutôt des personnages qui ont été un petit peu mis de côté par l'histoire. Donc ça fait toujours, oui. C'est un peu le principe de l'émission, donc on est toujours partant.
Un peu oublié on va dire, voilà. Voilà, et j'espère que les auditrices, auditeurs, ainsi que vous-même, ne souffrez pas trop de la chaleur. On va dire que c'est un peu un euphémisme, hein, parce que tout le pays est sous un dôme de chaleur épouvantable. Donc j'espère vous apporter un peu de fraîcheur avec Charles Cros.
Voilà. Oui, ça va être l'occasion de se relaxer et d'écouter, d'apprendre en même temps. Voilà, sans... On va essayer de faire baisser un peu notre température et ne pas s'agiter, donc ça va déjà être, à mon avis, un bon point.
Alors, j'ai découvert Charles Cros par Camille Flammarion, comme d'habitude, parce que comme j'étudie le personnage de Flammarion sur vraiment tous les angles de sa vie, j'ai découvert par le plus grand des hasards, d'ailleurs, et c'est dommage que je ne le savais pas encore lors du centenaire Flammarion, sinon j'en aurais parlé, qu'il était également ami avec Charles Cros, qu'il avait reçu à son domicile de la rue des Moineaux. La rue des Moineaux, c'est son premier domicile parisien qu'il partageait avec ses parents. Et en 1867... il le reçoit tous les mercredis chez lui, en compagnie quelquefois d'autres personnes connues de son temps, comme Gustave Doré, le fameux graveur, comme Charles Garnier, futur architecte de l'Opéra de Paris, et Louis Figuier, qui était un vulgarisateur très prolifique de son temps. C'est un peu, comment je pourrais dire, c'est un peu le Michel Chevalet de l'époque, mais en XXL, parce que Louis Figuier a écrit énormément de livres. Et donc, tout ce petit monde se retrouve chez Flammarion. et devise avec lui sur la pluralité des mondes habités. Et comment a connu Charles Cros, comment Flammarion connaît Charles Cros? Ben, c'est tout bête. Et à cette époque-là, on est en 1870, il y a la guerre franco-prussienne, il y a la Commune de Paris, comme vous le savez. Et donc Flammarion et Cros sont dans le même régiment, et ils font connaissance sur le front de Paris, et ils se lient d'amitié à cette époque-là. Et déjà, on sait par les mémoires de Camille que Charles Cros est passionné par les extraterrestres, c'est-à-dire il est convaincu qu'il y a des vies ailleurs intelligentes dans l'espace. Et là, lui, à l'époque, il pense dans le système solaire, et il cherche un moyen de communiquer avec eux, et notamment avec les Vénusiens et les Martiens. Voilà.
Tout un
Donc,
programme.
tout un programme. En cela, alors ça n'a rien de farfelu, puisqu'à cette époque-là, on a les travaux de, comment il s'appelait, du père Secchi, de l'observatoire du Vatican sur Mars. Quand je dis travaux, pardon, ce sont les observations, et notamment aussi de Schiaparelli, encore un Italien, qui vont observer ce qui ressemble à des canaux. En fait,
Ah oui, c'est ça, on est en plein conflit.
Schiaparelli, il parle de chenal. Ça a été mal traduit en anglais, mais bon. Chenal et canaux, c'est pas la même chose, hein, mais bon. Et ça a donné naissance à toute une émulation intellectuelle autour du sujet. Y a-t-il une civilisation extraterrestre avancée sur la planète Mars, donc des Martiens, et qui est une civilisation qui manque d'eau, qui est obligée de drainer de l'eau des pôles vers des villes via des oasis également, des réserves d'eau. Donc voilà tout le
Il y a tout un
programme de l'époque.
imaginaire et toute une construction.
Voilà. Il y a toute une construction qui va perdurer jusqu'aux années 60. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en 54, lors de la grande vague d'OVNI, on parle de Martiens, parce que ça tombe sous le sens. Hein. C'était à l'époque, voilà, c'était Mars qui était la candidate la mieux placée pour abriter une vie intelligente. Et il y a également, comment il s'appelle, H.G. Wells, dans son fameux roman du début du 20e, La guerre des mondes, où il met en scène les Martiens qui attaquent la Terre parce que ils veulent s'emparer de nos ressources. Voilà. Donc Charles Cros n'est pas du tout décalé en étant convaincu qu'il y a une vie sur Mars, par exemple, et sur Vénus également. Alors, je vais demander à Annie, ma femme, de vous lire un poème de Charles Cros en ouverture de cette petite conférence, de ce débat. Donc, ce poème s'appelle L'école buissonnière, et ça résume bien qui était Charles Cros. Alors, Annie, s'il te plaît, peux-tu nous lire ce beau
Mais
poème?
je vais essayer faire mon possible. Il y a 8 vers de 8 pieds, c'est ce que je viens de découvrir. Bon. Alors, on y va. Ma pensée est une églantine, éclose trop tôt en avril, moqueuse aux moucherons subtils. Ma pensée est une églantine. Si parfois tremble son pistil, sa corolle s'ouvre mutine. Ma pensée est une églantine éclose trop tôt en avril.
Donc voilà, un très beau poème qui a plusieurs sens
Oui, c'est ce que
et
j'ai dit.
qui résume bien qui était, enfin qui résume. Il a tellement écrit, mais on va dire pour une initiation de la poésie de Cros, c'est pas mal ce petit texte. C'est très très beau. Donc voilà. Alors n'hésitez pas à m'interrompre, hein, comme
Oui, sans
toujours.
problème.
Des questions, parce que voilà. Alors, Charles Cros est né dans l'Aude, près de Narbonne, dans un petit village qui s'appelait Fabrezan. Alors, comme le dit Flammarion, il présente une particularité avec lui, c'est qu'il est né la même année. Il est né en 1842, le 1er octobre 1842, à 8 heures du matin. Et donc, Flammarion le considère pratiquement comme un frère spirituel à ce niveau-là. Et par contre, ce qui est dramatique, comme il le souligne, c'est que le poète va décéder à 46 ans, donc de manière prématurée. Alors, les causes de sa mort sont mal connues. On connaît, vous savez, on a connu son décès par le journal Le Chat Noir, donc journal du fameux cabaret Le Chat Noir,
Oui,
qui est
oui.
Les poètes, les littéraires et même quelques savants de l'époque. Et s'il n'y avait pas eu la feuille du chat noir, la mort de Charles Cros serait passée inaperçue. Il faut savoir que il était un peu à la fin de sa, enfin à la fin de sa vie, il était encore jeune, hein.
Oui, bah
On
oui,
va
c'est
dire
ça.
à 46 ans, il était un petit peu mis de côté, il était un peu ostracisé par les gens bien pensants. C'était un homme qui était, on va dire, un penseur libre et qui ne supportait pas l'hypocrisie de cette société de l'époque, hein, la société bourgeoise. Il était libre, voilà, c'était un bohème, un esprit bohème. Alors, il faut savoir qu'il a eu des frères qui étaient très brillants, comme lui. On les a appelés la prodigieuse famille, hein. C'est des cinq crocs. On a Antoine qui était grammairien, on a Henri qui fut philosophe, on a Antoine qui fut métaphysicien, enfin un autre philosophe mais spécialisé plus dans la pensée autour de Dieu, qu'est-ce que Dieu, etc. On a aussi un sculpteur qui s'appelait Henri. Et enfin, on a Charles Cros, qui, comme on va le voir, est quand même mine de rien avant Edison, l'inventeur du phonographe. En fait, Edison a volé l'invention, il faut le dire quand même, à Charles Cros, parce que c'était quelqu'un qui était très organisé. En fait, Edison, c'est d'abord un homme d'affaires. Bon,
Oui.
c'est un inventeur aussi, hein, il ne faut pas lui enlever ça. Mais n'oubliez pas ce qu'il a fait à Tesla. Hein,
Ouais.
il a été incapable de découvrir le courant alternatif. C'est Tesla qui le découvre. Et que fait Edison? Eh ben, il va faire tout pour que Tesla soit mis en minorité et soit bien refoulé, etc. D'ailleurs, il a plus ou moins réussi. Et pour Charles Cros, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que Edison avait des antennes dans les pays européens où il y avait des inventeurs. Et ces antennes, ces gens étaient missionnés par lui pour rapporter ce qui était nouveau. Et Edison, selon ce qu'il pouvait voir, allait déposer des brevets avant tout le monde. Voilà, et
Voilà,
c'est ce
c'est ce
qu'il
que
a
j'allais dire, la
fait.
guerre des brevets.
La guerre des brevets avec Charles Cros. Alors, on n'a pas des preuves directes de ce que je dis là, ce sont des présomptions, mais des présomptions fortes d'ailleurs. Fermaillon lui-même prend la défense de Charles Cros et dit dans son livre qui s'appelle Les Curiosités Célestes, un livre de 1911, que Cros a été victime, on va dire, d'Edison, hein, il faut oser le dire, et qui lui a donc pris cette idée géniale. Alors, Cros avait nommé son invention le paléophone, mais c'était la même invention. Et en plus, il est aussi l'inventeur du disque micro-sillon et du rouleau, hein,
Ouais.
que va reprendre le rouleau que va reprendre
Oui,
Edison.
ce que j'allais
Donc,
dire, oui.
et le disque,
Ça nous semble
le
totalement familier.
voilà, c'est quand même incroyable, hein.
Ouais.
Alors, Charles Cros, on va se focaliser sur lui. C'est un enfant prodige. On pourrait dire aujourd'hui, c'est un enfant HPI, je pense, sans aucun problème. Il se passionne très tôt pour deux langues sacrées, le sanskrit et l'hébreu.
D'accord.
Parce qu'à cette époque-là, on était à la recherche des langues originelles. Qui avait été les mères langues du monde. Alors, c'était une croyance de l'époque que l'on sait aujourd'hui erronée. Mais à cette époque-là, c'était comme ça. Et donc, Cros apprend le sanskrit d'hébreu en achetant des livres. Tenez-vous bien.
Autodidacte, ouais.
Voilà, autodidacte chez des bouquinistes. Et là, il atteint un tel niveau qu'il donne des cours, tenez-vous bien, à Michel Bréal et Paul Meilla. Alors, qui sont ces gens-là? Ce sont des futurs professeurs au Collège de France. Et à 16 ans, Cros leur enseigne le sanskrit et l'hébreu. C'est quand même incroyable.
Quel
Et
parcours,
ces gens-là vont devenir ils vont être membres de l'Académie des sciences et reconnaîtront d'ailleurs ce qu'ils devaient à Charles Cros de l'apprentissage des langues. À 18 ans, il devient aspirant répétiteur à l'institution des sourds-muets et il donne des cours de chimie aux sourds-muets. C'est incroyable.
ouais.
Dans le langage des signes. Dans le langage des signes. Vous voyez? C'est donc un petit génie. Et c'est là qu'il a l'idée d'inventer le paléophone, l'ancêtre du phonographe. Parce qu'il s'était dit, mes petits élèves là, il a 18 ans, hein, il s'était dit, ça serait bien que je puisse enregistrer les cours sur un support artificiel et que les enfants puissent emporter ces cours avec eux chez eux, où leurs parents pourraient les écouter et s'initier également à ces connaissances pour les transmettre à leur tour à leurs enfants. Vous voyez,
Ouais,
c'est
c'est
une idée
un beau projet.
pédagogique intéressante. Et c'est pour ça que ça lui donne l'idée du paléophone. Mais alors donc, ensuite, il est révoqué malheureusement en 1862 parce que il engage en duel une personne. Et donc, le duel venant d'être interdit en France, il est révoqué pour cet engagement dans ce duel. Bon, après, il va commencer des études de médecine. Alors, tenez-vous bien, il va jusqu'au bout de ses études, hein, de médecine. D'ailleurs, on dit que c'était quelqu'un qui était très brillant aussi dans ce domaine-là, et il a posé de bons diagnostics, mais il décide au dernier moment de ne pas se présenter à son examen terminal, hein, un examen
Ouais.
qui aurait fait médecin à part entière, parce qu'il a estimé que le diplôme ne servait à rien. Bon, c'était un bohème, et il disait, bon, bof, quoi. Donc, il ne s'est pas présenté, et il a décidé d'écrire de la poésie, etc., et de continuer ses recherches, comme on va le voir tout à l'heure, dans le domaine de la télécommunication. Bon, c'est assez incroyable quand on entend ça.
Ouais.
Hein.
Ouais.
Vous écoutez Un autre regard sur Radio G 101.5 FM, l'émission qui explore tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre.
Alors, on le considère aujourd'hui comme un très grand poète, figure centrale, hein, du mouvement littéraire de la fin du XIXe siècle. À son époque, il était un petit peu critiqué parce qu'on disait que sa poésie était un petit peu lourde. Bon, mais ça vient surtout de ses opposants qu'il avait à l'époque, parce que il est dans un mouvement qui va fonder avec d'autres poètes qui s'appelle le zutisme ou le cercle des zutiques. Qui a eu son heure de gloire entre 1871 et 1872, où à l'intérieur on attaque le Parnasse, hein. Le Parnasse, c'était les poètes de l'Empire, du Troisième.
Institutionnalisé, ouais.
Voilà, et le symbolisme de l'époque. Et là, il se met à dos beaucoup de monde. Et notamment, il va un peu fustiger avec ses amis un homme de plume connu à l'époque, qui est Alphonse Daudet. Parce qu'Alphonse Daudet est un affreux réactionnaire. Hein. Il faut quand même savoir qu'à l'époque, bon, il a écrit de très beaux livres, mais c'est un réactionnaire terrible. Il fait partie de ce qu'on appelle à l'époque le parti catholique opposé aux réformes de l'éducation de Jules Ferry. Donc, c'est très, enfin, de Jules Ferry, bien avant Jules Ferry, pardon, excusez-moi pour cet anachronisme. Et donc, Cro l'attaque. Voilà, c'est un peu, à l'époque, on a une lutte qui est encore plus forte qu'actuellement entre les partisans d'un monde de culture ouvert à tous et d'un enseignement plus traditionnel, mais religieux, avec un fort regard religieux. Alors, il faut pas transposer cette lutte de l'époque à celle d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir, ça serait un anachronisme également. C'est vraiment typique de cette époque-là. Voilà, c'est typique de cette époque-là. Ensuite, il se lie d'amitié, vous savez, avec le grand Paul Verlaine, qui va rentrer en 1867, et avec qui il se lie d'amitié. Et à la demande de Verlaine, il va héberger chez lui Arthur Rimbaud. Arthur Rimbaud, qui est le grand ami de Verlaine et qui est un sans-dessous, hein, comme beaucoup de ces
Oui,
poètes de la bohème.
beaucoup
Et
d'artistes. Oui.
voilà, des artistes purs, des intellectuels purs. Et là, ben, Cros la vie de chez lui, il va l'héberger pendant un certain nombre de temps parce que sinon, ben, il serait à la rue. Rimbaud serait à la rue.
Ça fait une belle brochette. Les discussions à table devaient être, maintes fois, fort intéressantes et fort
Voilà.
poétiques.
Alors, il va écrire une œuvre marquante en poésie. C'est le coffret de Santal.
En 73.
En 13, voilà, qui est une très belle œuvre littéraire poétique, qui dit être inspirée par l'Inde. Mais bon, quand on lit le coffret de Santal, on voit pas trop l'Inde. C'est plus, ce sont des poèmes dédiés à l'amour. C'est magnifique. Hein, il faut voir, c'est superbe. Et on a aussi le poème Le Fleuve, 1875, qui est illustré par son grand ami, un peintre qui est Manet. Voilà, Manet, c'est quelqu'un aussi qui est très proche de Charles Cros. Hein. Donc tous ces gens-là se fréquentent et sont c'est tout des grosses pointures, on peut dire. Hein. Et alors, on a aussi, il faut savoir que Rimbaud a une maîtresse à l'époque dont il est éperdument amoureux, c'est Nina de Villars. Alors, Nina de Villars, elle est du côté du Parnasse, elle est du côté des poètes, on va dire, officiels du Troisième Empire, qui sont tout à fait, d'ailleurs, également talentueux. Hein. Ça, c'est à l'époque, cette lutte. Mais quand vous lisez les poètes du Parnasse, c'est aussi très beau. Hein. Donc, cette Nina de Villars tient salon. Et bien entendu, Charles Cros va tomber amoureux et va avoir avec elle une histoire d'amour très très puissante, et jusqu'au jour où ça casse. Hein. Et voilà. Donc, est-ce que Charles Cros est victime de cette femme qui était également une femme d'esprit, hein, c'était pas une imbécile. On ne sait pas. Donc, en tout cas, ça a marqué sa vie. Et ensuite, il va rencontrer une femme avec qui il va se marier, avec laquelle il va avoir deux enfants. Mais ça, c'est plus tard. Alors, au Chat Noir, donc ce fameux cabaret, hein, le Chat Noir qui est tellement connu, il va écrire un de ses plus célèbres monologues, qui est le fameux Arensor. Et il a écrit ce, notamment pour un acteur très connu à l'époque, qui s'appelait Coquelin Cadet. Alors, Coquelin Cadet, c'est un acteur extrêmement connu, qui est également un anticonformiste, qui joue des pièces diverses et variées, et qui est l'un des prosateurs de Cros. Voilà. C'est quelqu'un qui a beaucoup compté aussi pour Charles Cros. Ensuite, ce qu'on peut dire également de lui, pour terminer sur le chapitre littéraire et poétique, il a également fait partie des hydropathes. Alors les hydropathes aujourd'hui, ça serait terrible. Alors qu'est-ce que c'est des hydropathes? Eh ben, c'est des gens qui ont le pathos de la boisson. Hein. Il crée ça fin 1878. Il écrit même la chanson officielle des hydropathes que je vais pas lire ici parce qu'elle est un peu particulière. Et là, c'est vraiment pour faire un pied de nez à la société de l'époque, pour qu'elle bouge. Hein. Et ils font exprès, hein. Ils emploient des figures, on va dire, à connotation scatologique, sexuelle, etc. Mais c'est parce qu'ils veulent que ça bouge. Ils veulent que cette société sclérosée bouge. Et là, ils vont loin, effectivement. Donc, le Chat Noir, j'en ai parlé, qui avait été donc fondé par Rodolphe Salis. Alors, le Chat Noir, il y a tout un des légendes. Par exemple, est-ce que l'abbé Béranger Saunière, lorsqu'il rencontre Emma Calvé, va aller à Paris? On ne sait pas. Alors, est-ce qu'il est vraiment allé à Paris? Bon, ça reste encore problématique. Mais on dit qu'il aurait été au Chat Noir, voir des poètes, etc. Donc, il aurait pu très bien rencontrer Charles Cros, par exemple. Mais ça, l'histoire ne le dit pas exactement, puisqu'on n'a pas les documents. Ce sont des suppositions. Alors, j'en parle puisque la radio est ouverte à tout ce qui est mystérieux.
Ah bah oui, absolument.
Donc une piste pour ceux qui connaissent le château, une piste à approfondir, voilà, à voir, à pas rejeter d'emblée, mais il faut voir. Alors il y a les utistes dont j'ai parlé là, donc qui a été fondé également dans les années 71-72. Alors pourquoi des utistes ou des utiques? Parce qu'à l'époque, quand on disait zut, c'était un peu le mot des bourgeois, vous voyez, pour dire oui. Zut alors, voilà. Et eux, ils se sont moqués de ça. Et ils se sont réclamés du zut, donc les zutistes. Et on dit zut à tout. Voilà, c'est en gros un pied de nez encore à la société sclérosée de cette époque-là. Société brillante, hein, de très haute civilisation. Mais quand je dis civilisation, c'est-à-dire pas au niveau social, c'est plus au niveau d'un aboutissement de quelque chose. Mais il y a des inégalités sociales qui là l'empêchent de la classer dans une société quand même évoluée socialement. Elle ne l'est pas. Par contre, intellectuellement, elle est extrêmement développée. Voilà. Ça, c'est intéressant à ce niveau-là. Et alors, ce qui est dommage, c'est que malgré le fait que Cros est connu à son époque, c'était un homme qui n'est pas comme des peintres de l'époque. Par exemple, si on prend Van Gogh était connu, commençait à être connu, mais n'avait pas encore la notoriété qu'il a eue après son décès. Et lui, c'est pareil. Il est connu, mais il ne touche à pratiquement rien de son travail. Et il a une indemnité de 200 francs par l'administration des Arts et Lettres, mais qui ne suffit pas à vivre. Et donc, il a vécu dans le dénuement à la fin de sa vie, avec sa femme et ses enfants. C'est ça qui est terrible.
Oui,
Et
ben.
donc, il est mort en 1888, un peu dans l'oubli. Et c'est vraiment dommage. Et c'est Flammarion qui, révolté, va parler de lui à nouveau. Dans son fameux livre dont j'ai parlé. Alors, pardon, c'est pas que c'est Excursion dans le ciel. Excusez-moi. C'est Excursion dans le ciel. Voilà. Qui est un livre. Alors, je vous ai dit qu'il était de 1911 parce qu'en fait, il y a eu plusieurs éditions de ce livre jusqu'en les années 1920, je crois. Et celui-là, il date de 1800. Mon exemplaire à moi, il est de 1898. Voilà. Et voilà ce que dit Flammarion. Cette étude m'a été apportée au mois de mai 1869. Ce n'est pas d'hier. Alors, c'est l'étude sur la communication avec des mondes extraterrestres. Par mon ami Charles Cros, arrivé en ce monde la même année que moi, mais parti beaucoup plus tôt. Et a été l'objet d'une conférence faite ce même mois au boulevard des Capucines sur ma présentation. Elle a été imprimée dans le Cosmos du mois d'août suivant. Alors, la salle des Capucines, c'était une salle à l'époque où Flammarion donnait des conférences, ainsi que d'autres savants de son époque. Et au cours d'une conférence, il avait invité Charles Cros. Il a laissé la parole à Cros à la fin. Il lui a laissé, je crois, à peu près une demi-heure pour pouvoir s'exprimer, parce que sinon, il n'avait pas la parole à la salle des Capucines. Et après, il a fait imprimer dans le Cosmos de l'époque. Alors, Cosmos, c'est un mélange, on pourrait dire, entre aujourd'hui, science et vie, science et avenir, et la recherche, quoi. C'était là où les savants publiaient des textes, que ce soit des savants naturalistes, astronomes, paléontologues, etc. Voilà. Et donc, grâce à lui, Charles Cros est publié dans le Cosmos.
Vous écoutez Un autre regard sur Radio G 101.5 FM, l'émission qui explore tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre.
Alors il nous dit, Flammarion, il insiste, hein, Charles Cros a été le premier inventeur du phonographe et de la photographie des couleurs. Et on va le voir tout à l'heure, il a même eu le... C'est ça qui est fou, il a eu la... Il a été visionnaire de la photo numérique actuelle. C'est ça qui est absolument...
C'est fou, ouais.
Ah ça c'est incroyable,
ouais, c'est complètement fou,
c'est on ça. Est au 19e siècle, c'est fin 19e. Alors, Charles Cros expose une méthode rigoureuse pour établir un contact avec Mars ou Vénus. Alors, il veut toujours rester dans le domaine du raisonnable, Charles Cros. Il n'a pas du tout l'idée de faire appel à des médiums. À l'époque, vous aviez des têtes médiums qui pouvaient être en communication avec des martiens, des jupitériens, des solariens. Comme par exemple celle que j'aime bien l'histoire, la fameuse médium Ellen Smith, qui a été étudiée par Fournoy, un psychologue, et qui, dans des Indes, à la planète Mars, évoque justement toutes ces communications avec ces jupitériens et ces martiens. Charles Cros, en bon rationaliste qu'il est, et en bon tout simplement inventeur, il veut faire passer sur la planète Mars des transmissions lumineuses pour communiquer avec la planète, et donc avec les êtres intelligents qui sont à sa surface. Et il va dire le postulat suivant, qui est très moderne, soit nous recevons une réponse prouvant l'existence d'êtres intelligents, soit le résultat est négatif, ce qui tranchera enfin la question scientifique de la vie extraterrestre. Quand vous lisez ça, j'ai l'impression de lire un astrobiologiste moderne qui nous dit soit on va recevoir un message avec nos radiotélescopes.
C'est un peu le principe de la sonde SETI qui était parti.
Et avant de faire l'émission, j'ai remarqué, je suis allé voir sur Internet, je suis comme étonné que Cros oublie à ce point-là, mais non, ça, aux États-Unis, il y a une chercheuse française qui a fait un article assez long sur Charles Cros, justement, et Nikola Tesla, précurseur de programme SETI. Alors ça, j'ai été content de voir cela, et je ne le savais pas, mais alors, c'est déjà ancien, c'est un travail qui a été fait il y a une quinzaine d'années, et ça a été enregistré donc dans une université américaine, par exemple, je ne sais plus laquelle, mais enfin on peut trouver sur Internet, vous tapez Charles Cros, Nikola Tesla, espace SETI, et vous allez tomber dessus. Voilà. Alors, Charles Cros a une idée incroyable. Il va aussi avoir la prémonition du laser. Ça, c'est quand même incroyable. Oui. Alors, comment ? Il dit que le problème majeur, c'est la distance. Comment on va envoyer une lumière sur Mars et qu'elle puisse être vue de la Terre ? D'autant plus qu'à l'époque, la source de lumière la principale, c'est la bougie. Alors, c'est compliqué.
Ça part mal.
Voilà. Alors, Cros explique la loi du carré de la distance, c'est-à-dire une source lumineuse libre comme une bougie perd son intensité très rapidement car elle se diffuse dans toutes les directions. Donc pour éviter ça, à l'échelle de millions de kilomètres, une lumière ordinaire est invisible. Sa solution, et écoutez bien, c'est quand même très moderne, utiliser des miroirs paraboliques ou concaves pour concentrer la lumière en un faisceau cylindrique ou un pinceau très peu divergent dirigé vers une cible précise. Là, il trouve le principe des phares modernes, des projecteurs. Et on peut même aller plus loin, on va voir ça, du laser. Et il pense que cette solution-là, elle sera raisonnable, comme il dit, pour que des observateurs sur Mars puissent voir le signal envoyé. Et même il va donner encore, il va calculer aussi ce qu'il faut comme intensité lumineuse pour que de notre Terre un signal soit vu depuis la planète Neptune, qui est une planète extrêmement éloignée de notre Terre, qui est aux confins du système solaire. Et voilà, donc vous vous rendez compte, il réfléchit vraiment ici en pur scientifique. Voilà, c'est plus le poète là, on n'est plus face à un poète, on est face, on peut dire, à un scientifique, un inventeur de génie. Il calcule qu'avec une lampe électrique puissante et un miroir, le signal ne serait que deux fois plus faible que l'éclat de Neptune. Pour augmenter cette intensité, il propose de multiplier les sources en groupant 10 ou 50 lampes en miroir avec autant de miroirs, on créerait un point lumineux de 8e grandeur, parfaitement visible pour un astronome de Mars ou de Vénus équipé d'une lunette astronomique. Alors comment installer tout ça ? Ils pensent que les miroirs doivent être montés sur des mécanismes avec des rouages parallactiques, c'est-à-dire des rouages qui vont compenser le mouvement de la Terre par rapport à une planète cible. Donc, on compense la rotation terrestre. Ensuite, où le mettre? Alors, déjà à l'époque, quel est, à votre avis, le meilleur endroit? Eh bien, c'est comme pour aujourd'hui. Ils pensent à des zones désertiques ou carrément d'aller au pôle, dans une zone près des pôles. Pourquoi? Pour profiter des nuits de plusieurs mois, puisque son idée, c'est d'envoyer un signal de lumière, non pas un signal radio. Et donc, pour que la lumière soit toujours visible, ils pensent qu'il faut mieux aller dans des pays du nord du cercle arctique pour qu'on puisse toujours envoyer nos signaux pendant 6 mois. Voilà. Et il dit que si les lampes électriques ne suffisent pas, il suggère d'envoyer la lumière du soleil elle-même reflétée par d'immenses miroirs. Alors, quel langage utiliser avec les extraterrestres? Et c'est là aussi qu'il est d'une redoutable modernité. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'il va dire, à votre avis? Vous connaissez Carl Sagan, oui. L'astrophysicien qui a été le père, l'un des pères, c'est pas le seul, avec Franz Drake et d'autres, du premier projet OSMA, après SETI, MEGA-SETI, etc. Bon, eh bien, tout simplement, les mathématiques. Voilà. Des fois, je me demande si même si Carl Sagan n'a pas lu Charles Cros, parce que quand on relit ce qu'a dit Sagan et quand vous relisez ce qu'a laissé Charles Cros comme dans ses écrits scientifiques, c'est très étonnant. Alors, Charles Cros, comme Sagan et d'autres, dit il faut rejeter toutes les langues humaines. C'est même pas la peine, parce que...
On a du mal à se comprendre entre nous, déjà, des fois.
Exactement, entre nous, ou même avec des animaux, c'est pas toujours évident. Quoique ça peut être facile avec des animaux de compagnie, mais si on veut, par exemple, essayons de dialoguer avec des dauphins. Très difficile. Alors, vous avez, comment il s'appelait? Il y avait le biologiste Paul MacLean aux États-Unis qui a essayé d'apprendre, je crois, une dizaine de mots d'anglais à des dauphins. Il avait d'ailleurs réussi. Hein. Et il y avait des résultats étonnants. Mais ça s'arrête là. Voilà, on a beaucoup de mal à aller plus loin. Et donc, Cros pense à un langage universel qui sont les mathématiques, tout simplement, et la numération. Voilà. Parce que les mathématiques, comme disait Kepler, c'est le langage de Dieu quelque part. Bon, c'est d'un point de vue mystique, mais d'un point de vue rationnel, c'est le langage où on pense être compris par n'importe quoi dans l'univers d'intelligent. Voilà. Parce que les lois mathématiques sont universelles. Voilà. Et quand l'homme, l'être humain, peu à peu, dans sa progression, a compris le langage des mathématiques, ça a été des révolutions sans précédent. L'informatique, etc. Vous savez, les algorithmes qui, par exemple, permettent à nos logiciels de fonctionner, ont été inventés par un mathématicien perse, Al-Khwarizmi. Et quand il a trouvé ça, il n'y avait pas de... comprenez pas quoi, il n'y avait pas d'application. Et lorsque notre technologie a été suffisante, on a repris, vraiment dans les grandes lignes, on a repris ces découvertes-là, et ben ça a donné des algorithmes. Al-Khwarizmi algorithme, c'est un hommage à ce mathématicien perse. Voyez, donc les mathématiques sont là, et c'est autour de nous. Quand vous voyez par exemple un chou romanesco, oui. Bien ça obéit au nombre d'or.
C'est ce que j'allais vous dire, oui.
Voilà. Alors, le grand débat, c'est est-ce que les mathématiques sont extérieures à l'homme ou est-ce que c'est l'homme qui les produit et qui projette ça sur l'univers? Ça, c'est un débat qui n'a pas été tranché par les philosophes, mais ça reste d'actualité. Et moi, je pense que c'est d'un langage universel. Je suis assez d'accord avec ça. Et donc, Cros va dire qu'il faut envoyer sur la planète Mars ou Vénus ou d'autres planètes des signaux simples, doubles ou triples, permettant d'enseigner aux observateurs lointains un système de numération de base. Par exemple, un système binaire. Il pense à un système binaire, lui, tout de suite. Et là, Charles Cros, il anticipe d'un siècle les débats de SETI et Carl Sagan. Et il préconise l'utilisation de faisceaux directionnels dont la description dans ses écrits scientifiques ressemble comme deux gouttes d'eau au principe du laser. Franchement, c'est quand même incroyable de voir cet esprit bohème qui se fiche de ses diplômes, parce qu'il veut pas passer ses diplômes, qui se fiche de la société de l'époque, qui a un tel génie créateur. C'est pour ça que je le compare un peu à Tesla. D'ailleurs, je ne suis pas le seul, puisque cette universitaire française a comparé aussi, les compare un peu, hein, Cros et Tesla, parce que ils ont des idées similaires. Voilà. Pour ceux qui aient de la com avec les extraterrestres, pas pour le reste, hein. Mais là-dessus, c'est quand même très fort. Et Crowe va dire que la science pour lui, c'est pas le but. Le but de la science, c'est pas de faire de l'argent, c'est pas de faire des bombes atomiques, hein, des trucs comme ça. Bon, là, à l'époque, il n'y avait pas du tout le débat, mais à l'époque, on pourrait dire, c'est pas le but pour creuser des canaux comme à Panama, etc. Le but, c'est de briser la solitude de l'humanité dans l'univers. Ça, c'est beau. Ça, c'est incroyable. Là, on retrouve le poète, l'homme désintéressé. Il pense que la science doit briser notre isolation, notre isolement, pardon, là, notre isolement dans l'univers, pour nous ouvrir à nos frères célestes. Voilà. Ça, c'est le grand truc de l'époque. Et Crowe, là-dessus, il est extrêmement moderne. Alors, donc, Charles Crowe propose de transformer notre planète en un gigantesque phare ou un télégramme lumineux codé mathématiquement vers nos voisins célestes. Et déjà, à l'époque, il est critiqué comme le sera Carl Sagan, parce que on dit, oh là là, attention, est-ce que c'est pas dangereux?
Mais qu'est-ce qu'on va ramener?
Voilà, c'est toujours pareil. Qu'est-ce qu'on va ramener chez nous? Voilà, en plus les Martiens, c'est nos voisins, c'est pas loin. Hein. Aujourd'hui encore, il faut bien recadrer les choses, hein, contextualiser. À cette époque-là, les Martiens, c'est pas dans des étoiles lointaines. La vie extraterrestre intelligente, c'est pas dans des étoiles lointaines, c'est à côté de chez nous. Hein. C'est Mars, c'est Vénus, c'est Jupiter, Saturne. Parce qu'on croyait que toutes ces planètes étaient habitées, même le Soleil. Hein. Certains pensaient que le Soleil était habité. C'est pour vous dire. Là, c'était un peu naïf. Effectivement, et donc les gens ont encore plus peur à l'époque que maintenant, puisque à la limite maintenant, bon, oui, ça va tellement loin, donc le temps que la réponse se fasse est loin avec la vitesse de la lumière, les distances sont tellement énormes que
le temps qu'ils nous remarquent déjà.
Voilà, qu'ils remarquent, etc. Alors que là, les Martiens, c'est nos petits voisins, attention. Hein. Donc, très dangereux. Voilà. Et en plus, puisqu'on a le soupçon à l'époque qu'il manque d'eau, donc notre planète est pleine d'eau, donc c'est logique d'avoir peur à cette époque-là. Donc, Crowe va se faire un petit peu critiquer en disant, attention, vous allez nous signaler à des gens qui sont peut-être hostiles et qui, en plus, manquent d'eau dans leur planète. Vous voyez, c'est assez fascinant. Alors, il propose d'abord d'utiliser des séquences simples de nombres naturels, 1, 2, 3, 4, 5, 7, jusqu'à 100 éclairs, et recommencer ainsi de suite pour montrer qu'il s'agit d'un signal lumineux intelligent et non pas naturel. Donc, c'est logique. Et il insiste beaucoup sur la répétition en boucle de ces signaux pour se faire reconnaître comme une espèce intelligente. Et il dit, une fois de plus, il insiste, là, je cite Crowe, « Si nous ne recevons pas de réponse, ce n'est pas parce que les planètes sont désertes, mais peut-être parce que leurs habitants n'ont pas encore les instruments pour nous voir et qu'ils sont sceptiques, tout comme les humains l'étaient avant Galilée. » Alors là, je suis vraiment, j'en tombe de ma chaise quand j'ai lu ça, parce que c'est exactement, pratiquement, mot pour mot, le discours actuel des radioastronomes du programme SETI qui écoutent les étoiles, et que si on n'a pas de réponse, c'est qu'ils sont peut-être pas tout simplement développés la radioastronomie comme nous. Voilà. Moi, je trouve qu'il est extraordinaire. Donc, il pense aussi, alors là, j'en suis sûr, c'est pas possible que ce soit le hasard. Charles Crowe pense à créer une encyclopédie interplanétaire à l'usage des peuples extraterrestres. Exactement comme Carl Sagan va parler d'une Encyclopédia Galactica. Oui. Mais attendez, je rêve, c'est la même chose. Je me demande vraiment si Sagan n'a pas...
Le voyageur galactique.
Oui, voilà, mais parce que Sagan disait que dans l'univers, en admettant qu'il existe des civilisations extraterrestres avancées, en se fondant, alors là, il se pose sur l'équation de Drake, donc s'il existe N civilisations avancées, on va avoir accès, l'humanité aura accès à une encyclopédie galactique. C'est l'image qu'il donne. C'est une image. Et il dit qu'il faut qu'on se prépare à ça. Et en échange de cette réception qu'il imagine, un jour, il fait poser avec... Alors, il n'est pas seul, hein, il y a toute une équipe autour, ce qu'on appelle le fameux Golden Disc sur les 200 Voyageurs en 77, où dedans on a les salutations en plus d'une centaine de langues, on a des images de la Terre...
Des présentations de l'homme et tout ça, oui, il y a plein de choses.
Oui. Voilà, on a tout. On envoie en fait...
un condensé de nos connaissances, oui.
Exactement, et aussi de notre planète, ce que nous sommes, les animaux, les microbes, et tout et tout. Et ça, donc il faut envoyer ça en 77 sur les sondes qui sont maintenant...
Vous écoutez Un autre regard sur Radio G 101.5 FM, l'émission qui explore tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre.
L'invention du phonographe et du principe du vinyle, qu'il a appelé lui-même procédé d'enregistrement et de reproduction des phénomènes perçus par lui. Voilà. Donc, il faut savoir que cette invention, elle est réelle, hein, c'est pas une vue de l'esprit, puisqu'il a déposé un mémoire sous pli cacheté à l'Académie des sciences en avril 1877. Donc, nous avons la preuve de cela, hein. c'est pas des oui-dire, c'était, il a vraiment inventé le phonographe, voilà, tout simplement, et il a la priorité sur Edison, une fois de plus. Donc il décrit parfaitement et de manière technique, avec tout un appareil mathématique, hein, l'enregistrement des vibrations sur une surface plane ou un cylindre. Donc exactement 8 mois et demi avant le brevet de Thomas Edison qui va déposer en janvier 1878, le temps que l'information lui parvienne, comme je disais dans la première partie de l'émission, pour ensuite le plagier de manière éhontée. Alors bien entendu, il faut rester prudent. Moi, je suis convaincu de la chose, mais ça reste sujet à caution. C'est-à-dire que on a les partisans d'Edison qui sont nombreux encore, qui pensent qu'Edison a inventé le phonographe à part entière. Mais non. Moi, je pense que non. Flammarion également. C'était connu à l'époque. Hein.
Non, puis c'est vrai qu'il sortait. Il a tendance à sortir des prototypes très très rapidement. Si vous croyez effectivement.
Oui, copier, là. Nice. Et voilà, c'est évident. C'était un très bon homme d'affaires. Voilà. J'oserais dire, oh là là, j'ai envie de le dire, je m'en fiche. J'oserais dire que c'est le Donald Trump de l'invention. Voilà. Paf.
Ça, c'est dit.
C'est dit, voilà. C'est un homme d'affaires avant tout. Mais c'est pas un mec de génie. C'est pas vrai. Voilà. Donc, en plus, Edison va avoir les honneurs de la France, c'est une honte, il aura les honneurs de la France, et il va avoir le prix de 100 000 francs de l'Académie des sciences qui lui échappe à Charles Cros.
Alors pourquoi il en aurait bien besoin.
Et oui, et pourquoi il lui échappe alors que pourtant il y avait le pli, etc. C'est que, semble-t-il, l'histoire n'a pas eu pitié de Charles Cros, c'est-à-dire que le pli cacheté avant l'invention a été ouvert bien après, il était dans une pile d'autres plis, parce qu'à cette époque-là, on écrivait beaucoup de l'Académie des sciences pour des communications, et comme ça, et lui, malheureusement, je crois qu'il a été élu bien après, et trop tard. Donc le mal était fait. Voilà. Cela étant dit, ils n'ont pas fait grand-chose. Ils auraient pu faire un texte à l'époque pour le réhabiliter, ce qui n'a pas été le cas. Mais par contre, Flammarion le fait, lui, à sa manière. Flammarion avait été apparemment très en colère de cela. Et ça, c'est encore tout à son honneur à Camille Flammarion d'avoir pris la défense de Charles Cros. Parce qu'en plus, il va aussi inventer le principe, apparemment, de la membrane du haut-parleur. C'est ça qui est incroyable.
Oui, qui capte les vibrations, oui.
Voilà, donc là, grâce aux haut-parleurs de nos ordinateurs, on doit ça aussi un peu au génie de Charles Cros. Alors, il nous dit pour enregistrer, comment faire ? Eh bien, nous prenons une membrane vibrante, sensible aux ondes sonores, actionnée par un stylet léger, un stylet léger. Ce stylet trace une ligne ondulée sur un support mobile, un disque noirci à la flamme si possible, et si le silence règne, le tracé est une spirale lisse, et si un son est émis, la spirale devient ondulée, capturant ainsi l'intensité et la durée des vibrations. Vous voyez, il trouve le principe du micro-sillon. Et comment on reproduit ça? Alors, la reproduction, le tracé fragile est gravé durablement en relief ou en creux sur un matériau résistant comme l'acier. Alors ça, c'est marrant, il pense à l'acier. En faisant passer une pointe métallique sur ce tracé rigide, celle-ci transmet à nouveau les vibrations à une membrane qui recrée alors le son original. Donc là, on a une idée géniale de Cros, c'est qu'il comprend que si le son peut graver une forme, alors cette forme peut commander à nouveau la membrane pour produire le son. Donc c'est ce qu'on appelle le principe de réversibilité. Voilà. Et c'est le principe fondamental qui a donné naissance au vinyle moderne. Voilà. Au fameux vinyle. Et d'ailleurs, vinyles qui sont toujours utilisés parce que le son d'un vinyle, c'est beau.
Il n'y a rien à voir avec un son numérique.
Okay. Voilà. Le son numérique, il est synthétisé. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors que dans le vinyle, ça craque, c'est vivant, c'est beau, ça vous prend au trip. Ensuite, l'aspect technique. Alors, à l'époque, doit-on privilégier le disque ou le silence? cylindre. Alors à l'époque, Crowe privilégie le cylindre, tout comme Edison qui le copie.
Comme par hasard.
Ouais, comme par hasard, hein, je lui en veux. Hein. Parce que à l'époque, c'est plus facile, tout simplement, à utiliser. Voilà, que prendre un disque d'acier, et c'est de grande taille. Vous voyez.
Donc
le rouleau, c'est plus simple. Les ondes sonores, c'est ce qu'on appelle des ondes mécaniques. C'est donc elles ont un impact sur l'environnement. Vous savez tous l'expérience d'un air d'opéra qui va faire éclater un verre de cristal. Vous voyez une sonde. Et donc on voit bien que le son, c'est vraiment une onde mécanique. Elle est physique. C'est vraiment.
On ressent bien quand on fait du même impact. On écoute du bol tibétain. On ressent bien effectivement. Voilà, à l'intérieur, même... suivant les tonalités du bol, on ressent bien effectivement les différents effets physiques que ça fait sur nous. Hein.
Ou alors des gens, par exemple, qui sont, qui vont à une fête où ils sont devant des enceintes.
Des basses.
Des basses, et quand c'est à plein pot, je peux vous dire qu'on les sent les enceintes. Voilà, donc Charles Crowe, bon, il faut retenir, c'est l'inventeur du phonographe, des disques vinyles en quelque sorte, mais pas avec du vinyle, c'était de l'acier qu'il utilisait, et du rouleau, voilà, que va reprendre plus tard, quelques mois plus tard, Edison. Voilà, donc c'est quand même quelque chose de très important, et aujourd'hui en France, c'est reconnu, puisque à l'anniversaire centenaire de sa mort, on a émis en France des enveloppes premier jour avec le phonographe, on le reconnaît comme inventeur du phonographe à part entière aujourd'hui. Hein. Voilà. Alors maintenant encore plus fort. Charles Crowe, en tant que médecin, parce qu'il était médecin, et c'est un médecin, et il va étudier, tenez-vous bien, les principes de la mécanique cérébrale. Et il cherche à reproduire le mécanisme de la pensée à travers, alors là on est en pleine science-fiction, à travers un robot. Et il va même penser qu'un jour, il y aura une intelligence artificielle. C'est ça qui est absolument fou. Et ça, c'est fort. Alors ça, on peut parler, c'est à la fois, c'est un visionnaire. Voilà, ça, il a une vision de quelque chose qui va arriver dans le futur. C'est ça qui est assez incroyable.
C'est propre à l'époque aussi, hein, où effectivement,
complètement.
On est complètement transporté dans les progrès de la science qui sont énormes. Et puis, il y a aussi la poésie qui est là, les rêves, une grande place à l'imaginaire, qui fait que quelque part, à cette époque-là, les deux se rencontrent et il y a vraiment des opportunités énormes.
Voilà. Alors, il faut pas oublier aussi, alors justement, on va contextualiser. N'oublions pas que c'est l'époque de Frankenstein, Marie Shelley, avec son fameux roman, hein, il y avait des scientifiques, enfin des savants qui parlaient de ça à l'époque. C'est-à-dire, comment redonner vie à un mort?
Avec les expériences de galvanisation et autres, oui.
Voilà, et il y a aussi le grand, comment je pourrais le nommer lui, on va dire scientifique, Paul Broca, qui fait des expériences un petit peu pas très fun sur des gens, voilà, des cadavres et peut-être des condamnés, on sait pas très bien, où il va localiser des aires dans le cerveau, voilà, des fameuses aires de Broca qu'on appelle aujourd'hui encore les aires de Broca, et Crowe est au courant de ça, hein, donc il se tient au courant de tout ça et il extrapole de son côté que le cerveau est comparable à un boîtier mécanique de lequel les fonctions cérébrales ont un mécanisme qui peut être reproductible dans une machine. Et donc, il va étudier les sensations, les pensées et les actes. Et son but, c'est de construire un modèle mécanique théorique qui reproduit ces fonctions-là pour faire, en gros, un être intelligent, artificiel. C'est pratiquement le mythe du golem. Et ça m'effraie un peu personnellement, parce que c'est à la fois intéressant et un petit peu effrayant. Mais quand je dis effrayant, c'est-à-dire dans la finalité de la chose. Voilà. La finalité de la chose. Voilà. Pourquoi créer un être forcément comme nous, notre clone mécanique, voilà. Parce que dans les contes anciens, ça a toujours été une catastrophe. Et il va poser, dans son approche scientifique, les fondements philosophiques de la cybernétique et de l'IA. Alors ça, c'est certain. Où il va dire que la vision humaine repense aux trois couleurs primaires. Et ça va donner la photo couleur. C'est-à-dire, il dit à cette époque-là que on interprète avant toute chose le rouge, le jaune et le bleu. Ouais. C'est-à-dire, pour parler d'une manière plus technique, le magenta, le cyan et le jaune. Et qu'en les superposant, on a la base de tout ce qui existe en couleur.
Parce qu'il y a la base de ce qu'on nous apprend en art plastique, effectivement.
Voilà, ça je sais pas. Donc voilà. Et c'est lui qui est l'un des premiers à le, comment dire, à l'écrire de manière scientifique. Voilà, c'est l'un des premiers. Et d'ailleurs, c'est beaucoup plus fort que Goethe en personne, parce que Goethe, de son côté, en Allemagne, avait écrit un livre sur les couleurs, mais Cro, lui, se montre beaucoup plus technique, parce que, alors, à la différence de Goethe, Cro maîtrise totalement les mathématiques. Hein. Il faut savoir que c'est un brillant mathématicien également. Ça, c'est fou. Il a fait des tas de trucs. Il est aussi à l'aise en mathématiques qu'en poésie. C'est ça qui est,
Ouais.
très étrange.
Ouais, c'est un
Bon.
touche-à-tout. Ouais, c'est un peu comme Caméphile et Marion. On comprend de toute façon leur,
Voilà.
finalement leur coup de foudre amical, parce que
Oui.
quand on se renseigne un peu sur la jeunesse du coup de Charles Cros, on se rend compte qu'ils ont le même appétit en fait d'apprendre, la même
Voilà.
curiosité pour tout, que ce soit les choses un peu plus littéraires que la poésie, que les mathématiques et tout ça. Donc c'est vrai qu'on comprend effectivement qu'ils ne pouvaient qu'être amis finalement.
Voilà, exactement. Et c'est exactement ça. Et donc, Charles Cros a cette envie de créer, en fait, un cerveau artificiel. Voilà, tout simplement. Une idée moderne qui sent le soufre à l'époque et qui continue de sentir le
Oui,
soufre,
ce que j'allais
d'ailleurs.
vous dire, de nos jours, c'est pareil, c'est
C'est
pas
pas
plus loin.
terrible. Voilà. Vous savez, quand on lit le mythe du golem, j'en ai parlé ailleurs, hein, j'ai donné déjà des exposés, des conférences sur le golem dans la Kabbale, avec le Maharal de Prague, mais le golem, c'est un robot qui est créé par la magie kabbalistique et qui va se retourner contre son créateur. Voilà.
D'accord.
D'ailleurs, l'un des pères de la cybernétique moderne aux États-Unis connaissait très bien ce mythe et avait mis en garde les humains en disant, nous tous, en disant, attention, si nous créons un jour des êtres robotiques doués d'intelligence, ils se retourneront contre nous forcément. Pourquoi? Parce qu'un jour, ils vont dire que nous ne sommes pas
À la
parfaits.
hauteur.
Voilà. Et ça, ils ont, alors, bien entendu, ça sous-entend que les machines en question vont avoir un jour une conscience elles-mêmes. Alors, c'est ça le débat.
Ouais.
Est-ce que, oui ou non, un jour, des androïdes dotés d'une intelligence artificielle très évoluée vont être capables de penser par eux-mêmes en dehors de toute chose humaine et surtout d'avoir une conscience. Voilà. Est-ce que oui ou non ça va se produire? C'est ça la grande inconnue. Alors je voudrais finir sur le sonnet kabbalistique de Charles Cros. J'aimerais qu'Annie nous puisse le réciter. Annie, si tu veux bien, pour conclure cette émission sur Charles Cros et ses inventions. Alors, je laisse la parole à Annie sur ce sonnet kabbalistique. Alors, il faut savoir que Charles Cros était aussi un passionné de kabbale et de langue des oiseaux. Hein. Voilà.
Dans notre vie âcre et frayeuse, ta splendeur apparaît étrange. Phare altier sur la côte affreuse, et te voir est joie et regret. Car notre âme que l'ennui creuse cède enivrée à ton attrait. Et te voudrait la reine heureuse d'un monde qui t'adorerait. Mais tes yeux disent, Sidonie, dans leur lumineuse ironie, leur mélancolique fierté, qu'à au front, d'où leur fin rayonne, il suffit d'avoir la couronne de l'idéale royauté.
Merci. Voilà, donc un très beau sonnet hein, de Charles Cros qu'on appelle le sonnet kabbalistique. Et moi, je me suis amusé à le décortiquer sous l'angle de la Kabbale. Effectivement, on a le mot splendeur qui est une des séphiras. On a l'idée de phare altier, la lumière. Donc, on a pas mal de références kabbalistiques. Et c'était un personnage, Charles Cros, très riche, assez flamboyant, multifacette, et qui avait l'espérance que nous ne soyons pas seuls dans l'univers et qu'on puisse un jour entrer en contact avec une civilisation extraterrestre.
Qu'on puisse en
Voilà.
bénéficier aussi. Eh bien, merci beaucoup pour cette intervention.
De rien.
On se retrouvera peut-être pour la prochaine saison, parce que là, du coup, l'émission va faire une petite pause estivale. Je vous remercie encore, Jonathan Giné, de votre
Rien.
présence et de vos lumières.
De
Et je vous
rien.
souhaite d'aller vous rafraîchir un bon coup.
Merci.
C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci beaucoup, Jonathan Giné.
À bientôt.
Ainsi s'achève cette nouvelle émission d'Un autre regard. Ce soir, nous avons découvert le destin fascinant de Charles Cros, un visionnaire dont les idées ont parfois précédé de plusieurs décennies, voire presque plusieurs centaines d'années, les réalisations techniques de son époque. Alors, inventeur oublié du phonographe, poète, rêveur et pionnier d'une certaine manière de la recherche de vie extraterrestre, Il nous rappelle que les grandes avancées commencent souvent par une simple question, et si c'était possible. Et avec cette émission, c'est également la fin de notre deuxième saison d'Un autre regard. Depuis plusieurs mois, nous avons exploré ensemble des lieux mystérieux, des affaires inexpliquées, des personnages fascinants, des phénomènes paranormaux, des légendes, des croyances et des énigmes qui continuent de nourrir notre curiosité. Merci à tous ceux et à toutes celles qui nous ont suivis fidèlement, que ce soit en direct sur Radio G 105.fm, en podcast, sur les réseaux sociaux ou ceux qui nous écoutent aussi à travers notre site internet www.radio-g.fr. Mais rassurez-vous, Un autre regard reviendra à la rentrée pour une troisième saison, avec toujours la même envie de questionner l'inconnu, d'explorer l'étrange et de garder l'esprit ouvert sans jamais renoncer à l'esprit critique. D'ici là, profitez de l'été, prenez soin de vous, continuez à vous émerveiller, à vous interroger et à regarder le monde sous un angle différent. Radio G. 101.5 FM. Radio-G.fr.